إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Donc nous avons déjà commencé le 19e hadith. Nous nous sommes arrêtés à quel passage ? Le troisième point ? Non, Taïb, le troisième point. Non. Donc nous sommes dans le hadith d'après Abu Huraira radiallahu anhu, an Abi Huraira radiallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal, ijtanibu sab' al-mubiqat, qalu ya Rasulallah wa ma hunna, qala ash-shirku billah, والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فوصلنا إلى المسألة الثالثة من الحديث troisième point du hadith وثالثها يقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وثالثها قتل النفس وإزهاق الروح البريئة وإراقة الدماء الطاهرة. Donc le troisième point cité dans ce hadith, troisième point parmi les grands péchés dévastateurs, destructeurs qui amènent à la perte de la personne, c'est l'assassinat, la tuerie. De tuer une âme, une vie innocente et de diffuser du sang qui est pur. فَتِلْكَ جَرِيمَةٌ تُوقِعُ الرُّعْبُ فِي نُفُوسِ النَّاسِ وَتُزَلْزِلُ أَمْنَهُمْ وَتُفَتِّكُ بِالْأُمَّةِ وَتَقْطَعُ رَوَابِطِ الْإِخَاءِ وَتَنْشُرُ الْأَحْقَادِ وَالْعَدَاوَاتِ بَيْنَ النَّاسِ. Ce crime, ce grand péché, qui est un crime abominable, effrayant, qui amène la peur dans les cœurs des gens, qui fait trembler leur sécurité, leur tranquillité, et qui amène le mal et la division et la scission dans la communauté, et qui vient à couper les relations de fraternité qu'il y a entre les membres de la communauté et vient se propager derrière la haine, le détestement et l'animosité entre les gens. فَمَا أَفْضَعَهَا مِنْ جَلِيمَةٍ وَأَخْطَرِهَا. Quel mauvais crime et quel dangereux crime que cela. وقال الله تعالى في شأنها من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Allah nous dit à ce sujet, dans le sens du verset, celui qui vient tuer une âme, une personne, sans que elle ait tué quelqu'un, sans que elle n'ait fait de la corruption sur terre, alors c'est comme si il avait tué tous les gens, toute l'humanité.
Donc, en islam, la vie humaine, elle est sacrée. Elle a toute sa valeur et sa place. On ne vient pas à enfreindre, à toucher à cette personne sans une loi claire de notre religion. Lorsqu'il est parlé qu'une personne mérite d'être tuée pour un crime commis, un mal commis, il est voulu ici la peine. C'est une peine de mort. Il y a des peines pour des délits commis. Et certains délits, leur peine, c'est la mort. La peine de mort, qui vient à l'appliquer ? C'est l'autorité du pays. Donc les gens qui lisent des textes où il y a, où il est cité la peine pour tel ou tel crime, et ils pensent qu'ils sont en droit d'aller l'appliquer sur des gens, ces gens n'ont rien compris à l'islam, n'ont rien compris même à la vie. Dans les pays, ils ont des lois, et celui qui commet tel ou tel délit ou tel crime, il a des peines. Est-ce que quelqu'un comprend de là que c'est lui qui va appliquer ses peines ? Ou alors, c'est un tribunal qui va juger la personne, puis à la sentence qui va être prise, puis exécutée. Ce n'est pas à chacun. Les groupuscules éloignés de la véritable compréhension de l'islam, qui viennent à vous réciter des versets ou des hadiths, pour les ramener dans des contextes tout autres, ou leur donner un sens tout autre, il ne faut jamais les écouter. Ce sont des fous. Ce sont des asiles psychiatriques qu'il leur faut. Même leur parler, pour certains d'entre eux, ne sert plus à rien. Ils sont tellement éloignés, tellement Allah tabaraka wa ta'ala ne leur donne pas la guidée, qu'on ne peut plus rien pour eux. Il y a des gens, c'est seulement une autorité ferme face à eux qu'il faut. D'autres personnes, induites en erreur, cherchant la vérité, cela encore, on peut peut-être parler avec eux et les faire revenir à la droiture et à la vérité. Mais il y a des gens, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, parce qu'on n'est pas, on n'est pas maître de leur cœur. On n'a pas cette capacité qu'a seulement notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Lui seul possède les cœurs des gens. Lui seul peut guider les gens ou les égarer. Nous, on est des causes, mais la finalité n'est pas entre nos mains. On entend par-ci, par-là, on veut faire des centres de déradicalisation. Déjà le terme, il faudrait le comprendre. Parce que le terme radical, est-ce qu'il est péjoratif ? Ils ont des partis qui s'appellent le parti radical. Donc si c'était mauvais, je ne pense pas qu'ils s'appelleraient comme ça. N'est-ce pas ? Donc le terme radical, faudrait déjà... C'est ça, c'est un problème aussi dans le langage. Lorsqu'on emploie des mots, il faut déjà les comprendre. Il y a toujours des gens qui répètent. Quand on le stoppe, on lui dit stop. Ça veut dire quoi tel mot ? Il n'a jamais pensé. Il a répété que ce qu'il entend. Sans savoir exactement... c'est la signification des termes. Mais il y a de l'extrémisme, ça oui. Des gens qui sont attirés et qui vont vers l'excès. Ça existe. Et cet excès et cette exagération dans la religion, l'islam a mis en garde contre. Allah tabaraka wa ta'ala a réprimandé les gens du livre, les chrétiens et les juifs, qui faisaient de l'excès dans la religion. Allah dit dans le Coran, « Ya ahl al-kitab » لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. Dans le sens du verset, ô vous les gens du livre, n'ayez pas d'excès dans votre religion et ne dites sur Allah que la vérité. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. Attention et à l'excès. Car ce qui a amené ceux d'avant vous à leur perte, c'est l'excès dans la religion. Le juste milieu, c'est le chemin sur lequel nous a laissé le prophète alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas d'excès et il n'y a pas de laxisme. La voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme elle est, c'est le juste milieu. C'est la voie qu'il faut suivre, celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des gens qui sont attirés par l'excès. Il y a des gens qui penchent vers l'excès. Et l'excès mène vers la perte. Quand ces trois hommes ont questionné les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son adoration, et qu'elles ont répondu en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, c'est un homme qui prie la nuit et il dort, qui jeûne le jour et qui rompt son jeûne, et il se marie avec les femmes, et dans une autre version, et il mange de la viande. Ces trois hommes ont minimisé l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont considéré que c'était peu. Ils s'imaginaient qu'il faisait bien plus que cela. Puis l'un d'entre eux leur fait le rappel. Lui, il est le prophète. Allah lui a déjà tout pardonné. Mais qu'est-ce qu'il en est pour nous? Alors chacun a pris un engagement. L'un dit, moi, je ne me marierai jamais. C'est-à-dire, je m'adonne complètement à l'adoration. Comme font les moines dans les monastères. L'autre a dit, et moi, je prierai tous les jours, toutes les nuits, sans dormir. Et le troisième, et moi, je jeûnerai tous les jours, sans arrêt. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam entre à la maison plus tard, ses épouses lui racontent, il y a trois hommes qui sont venus, ils ont toqué, on leur a dit que tu étais absent, et on les a entendus derrière la porte parler, ils parlaient à haute voix, et on les a entendus dire ceci et cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Subhanallah. Aujourd'hui, les gens ils diraient quoi? Mais il est où le mal? Pourquoi vous empêchez les gens d'adorer Allah? Il veut s'adonner à l'adoration, c'est bien. Non, ça c'est de l'excès. Ce n'est pas le fruit du suivi parfait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a convoqué la communauté, les sahaba, radiallahu anhum. Et il a dit, comment se fait-il qu'il y en ait qui disent ceci et cela? Certes, je suis le plus pieux envers Allah parmi vous. Et je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. Et je suis celui qui connaît le mieux parmi vous. Il leur donne une réalité. C'est un fait. Allah, il a donné cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je suis un homme qui prie la nuit et qui dort, qui jeûne et qui rompt mon jeûne, et je me marie avec les femmes, et dans une version, et que je mange de la viande, que celui qui ne veut pas de ma voix ne fait pas partie de moi. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Voilà la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas ce genre d'excès. Ces gens qui vont venir après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prévient les compagnons, plein de fois. Un des compagnons a dit, quand on lui a dit, tu as entendu le prophète dire ça? Il a dit, si seulement c'était une seule fois, mais je l'ai entendu plus de 20 fois. Il a mis en garde contre une partie de la communauté qui apparaîtra. Et il a donné leur signe. Ce sont des gens, si on les regarde seulement, on les voit des gens pieux. On les voit des gens dans l'adoration. Mais au même moment, ils sont égarés parmi les plus grands égarés. Vous allez les voir lire le Coran. Le Coran ne dépasse pas leur gorge. Ça ne va pas jusqu'au cœur. C'est des adorations, mais qui ne vont pas jusqu'au bout. Et il a dit aux compagnons qu'ils sont les meilleurs des hommes après les prophètes. L'un d'entre vous, il va mépriser sa prière face à leur prière, son jeûne face à leur jeûne, sa lecture face à leur lecture. Et au même moment, il quitte la religion plus rapidement qu'une flèche ne quitte l'arc ou ne transperce sa proie. Donc, l'excès dans la religion. Donc, face à eux, ils ont les compagnons, ils contredisent les compagnons. Ils font de leur contradiction l'islam, Puis, ils disent aux compagnons, vous avez quitté l'islam. Ils contredisent ceux qui leur ont transmis le message prophétique. Puis, ils les taxent de mécréants. Et en toute époque, ils apparaissent et ils sont anéantis. Ils apparaissent et ils sont anéantis. Ils apparaissent et ils sont anéantis. Et ça sera comme ça, de temps à autre, jusqu'au moment où l'Antéchrist viendra. Et les derniers des Khawarij, ils seront du nombre de l'armée de l'Antéchrist, de Dajjal. Wallahu al-musta'an. Donc, ce sont l'excès, voilà où il emmène. Donc les gens, ça commence dans la communauté par parler sur les gouvernants. Et ça, c'est une tradition prise de ce juif qui s'appelle Abdullah ibn Saba, qui est le père fondateur de Rawafid, des chiites, de cette idéologie, et qui a poussé les gens aussi à se soulever contre les autorités des pays musulmans. Alors que les Sahaba radhiallahu anhum avaient enseigné tout autre. Ils avaient enseigné ce que le prophète leur a donné comme savoir. De faire preuve de patience, de ne pas parler ouvertement sur les autorités. Et que celui qui a une chose à dire à l'autorité, qu'il s'isole avec lui, avec l'autorité, et il lui dit ce qu'il a à lui dire, et il revient. Soit il a pris de lui, et s'il n'a pas pris de lui, il s'est acquitté de son devoir. L'islam ne demande pas plus. Le bien général prévaut sur le bien personnel. Et c'est pour cela que les ulamas des premières époques, ils en ont fait un chapitre dans les livres de dogmes, de croyances, le comportement à avoir vis-à-vis des autorités. Donc éloignez-vous de ces gens qui appellent au désordre, qui appelle au trouble. Parce que les gens ne veulent pas de Bachar al-Assad. Et ce n'est pas une défense de cet homme, mais c'est le gouvernant de ce pays. Tu veuilles ou tu ne veuilles pas, c'est lui. Depuis des années, il est là. Les gens, ils ont dit, c'est bon, c'est le moment, on va se soulever. Regardez le résultat. Pour enlever un homme, regardez tout ce qui s'est passé, on en est à combien aujourd'hui ? Et encore, il n'y a qu'Allah qui connaît le nombre de morts. Des centaines de milliers de morts et des millions d'habitants qui sont éparpillés dans le monde, qui sont devenus des mendiants. Depuis quand les Syriens y mendient ? Depuis quand ? Voilà. Maintenant, la majorité, ils vont dire quoi ? On aurait préféré revenir en arrière. Mais l'être humain, il ne prend pas des leçons. Il ne prend pas des leçons. Et ceux qui les poussent à ces soulèvements, ce sont ceux qui s'impliquent le moins. Ils ne savent que parler. Et eux, ils sont pires. Parce que ce sont les instigateurs. Et ceux qui poussent. Et il y en a. Comme les recruteurs. Allez rejoindre Daesh. Allez rejoindre l'Irak. Allez rejoindre la Syrie. Et lui, il est là. Mais puisque tu parles bien, va appliquer ce que tu dis. Et d'un côté, on se débarrassera de toi. Subhanallah. Non. Il envoie les enfants des gens et lui et ses enfants ne bougent pas. Ça, c'est connu. Hein, attention. Oui, mais il m'a récité des versets. Oui, mais tu croyais quoi ? Tu croyais qu'il allait venir te voir te dire je suis un escroc ? Ça n'existe pas. Subhanallah. Je t'envoie vers le mal. Ça n'existe pas. Bien sûr qu'il va te parler avec des paroles mielleuses, attirantes. Wa inna min al-bayani la sihra. Comme a dit le prophète, dans l'éloquence, il y a de la sorcellerie. Combien de gens disent « Wallahi, j'ai rien vu arriver. » Ils parlaient tellement bien. Il y en a, ils ont donné tout ce qu'ils avaient comme fortune à des gens. Après, ils ont compris qu'ils se sont fait escroquer. Subhanallah. Ils l'ont. Tellement qu'ils parlent, c'est comme quelqu'un qui leur a jeté un sort. Subhanallah. Avec ses paroles. Il y a des beaux parleurs, comme on dit. Attention à ces conteurs qui montent sur le minbar, qui profitent de cette place, qui profitent de la gentillesse des gens, de la population, qui profite de l'ignorance des gens pour les induire en erreur. Subhanallah. Attention à tous ces prêcheurs égareurs, car l'escroquerie dans la religion, elle est pire que l'escroquerie dans les domaines mondains. Quelqu'un qui t'escroque dans l'argent, dans de la marchandise, c'est grave. Mais quelqu'un qui t'escroque dans la religion, wal'iyadhu billah. Faites attention. Et voilà le résultat. À la fin, le sang humain n'a aucune valeur. Aucune valeur chez certains. C'est tout à fait normal. Ça devient banal. Une vie de moins, une vie de moins, une vie de moins, c'est devenu banal. A'udhu billah. Et les gens devraient arrêter de trop regarder les médias. Subhanallah. D'un côté, ils te disent, j'ai pas confiance aux médias, mais de l'autre côté, ils ne peuvent pas s'en passer. C'est agib. Rarement tu trouveras une personne qui dit, ah oh, les médias, mashallah, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Tout le temps, les gens, ils disent, en général, et même ceux qui travaillent dans les médias, ils te disent, on n'a pas confiance aux médias. Mais au même moment, il ne peut se passer des médias. C'est étonnant. Subhanallah. Les images, ils font, qui font mal à la tête. Il croit apprendre sa religion en regardant le sang qui est effusé. Ce n'est pas comme ça que vous allez aider la communauté. Faites des du'as, profitez des moments propices. Demandez à Allah Azza wa Jal d'atténuer les douleurs. Demandez à Allah Azza wa Jal de mettre un terme à tous ces troubles. Demandez à Allah Azza wa Jal de venir en aide aux opprimés de par le monde, et ainsi de suite. C'est ça que là tu es d'une utilité. Et qui sait celui dont Allah va lui exaucer sa demande. Et n'est-ce pas que la victoire est donnée par les du'as des plus faibles parmi nous, comme il est dit dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, et une gravité aussi, c'est cette langue. De contribuer au mal de là où tu ne le vois pas. Un mot que tu as prononcé, à un moment donné, il peut être la cause d'un trouble. Il se peut que tu le saches et il se peut que tu ne le sais même pas. Et mais c'est toi qui étais la cause. Un mot que tu as écrit, que tu as envoyé, il peut être la cause d'un trouble. Il faut préserver, se préserver. Et laisser chaque domaine à ces personnes qui ont la capacité d'y entrer. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, ces mouvements ou ces prêcheurs du faux, ils vont s'attarder sur les gouvernants. Ça, c'est une porte. C'est pas celle-là qu'il veut exactement. Il va aller encore plus loin. Mais il faut l'ouvrir, celle-là. Une fois que les gens ils l'écoutent, ils sont d'accord avec lui, il va s'attaquer à tout ce qui est autour de ce gouvernant, de près ou de loin. Puis, il va s'attaquer à la population. Et une fois qu'il te fait comprendre qu'ils ne sont plus musulmans pour telle ou telle ou telle raison, à la fin, il en arrivera à te dire, maintenant, tu peux effuser leur sang. Wal'iyadhu billah. Ce sont des sanguinaires, criminels, qui n'ont aucun respect pour les personnes. Wal'iyadhu billah. Et à la fin, certains d'entre eux, ils s'entretuent entre eux. Et ça, c'est connu historiquement. Al-Khawarij, au final, souvent, ça se termine comment pour eux? C'est entre eux qu'ils s'entretuent. Parce que chacun, un beau jour, il considère l'autre comme kafir. Ils s'appliquent les règles entre eux, après. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous préserve de tout mal. Warabi'uha, le quatrième point, aklur riba. Là, ça concerne le sujet de al-riba, qu'on traduit par les intérêts ou l'usure. Hein, qu'aujourd'hui, on connaît, c'est les intérêts bancaires. Bien que al-riba, ça ne concerne pas que la banque. Al-riba, c'est un péché commis par des gens, hein, des simples personnes. Hein, d'accord. Puis aujourd'hui, il s'est beaucoup répandu par le biais des banques. Wahoua, istighlal lil-insaniyya, wa imtisasu li-juhudiha, wa aklun li-amwaliha bil-batil, duna an yabzul al-murabun ay juhdin fi tilka al-amwal al-mustabaha. C'est un profitage. Il profite sur les gens, sur l'humanité. Ils viennent à profiter d'eux. Les gens sont dans le besoin. Et ils essayent de leur prendre de l'argent sans faire aucun effort. Il leur prête, tu me rends plus. Voilà ce qu'il a fait. Rien d'autre. Donc c'est une manière de prendre de l'argent des autres, mauvaise, interdite en islam. C'est un moyen qui est faux. وفي التعامل بالربا محاربة لله ورسوله في الدنيا. Le fait de s'adonner à riba, aux intérêts, à l'usure, c'est une déclaration de guerre contre Allah et son messager dans ce bas monde. Celui qui le fait, il est en train de déclarer la guerre à Allah et à son prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Min mujibatin nar, et c'est aussi une des causes d'entrer dans le feu de l'enfer, de commettre ce péché. Wa kayfa la yakunu kadhalik wal murabun ashadd an-nas qaswatan. Comment il n'en serait pas ainsi alors que les gens qui s'adonnent et qui sont la cause des intérêts de l'usure sont parmi les gens qui ont les cœurs les plus durs. Wa ab'adu an-nas 'an ar-rahmah, et les plus éloignés de la clémence. Il n'y a que quelqu'un qui n'a pas de clémence pour profiter du besoin des gens, de réclamer, d'être remboursé plus que ce que lui a donné en prêt. Alors que prêter, emprunter, prêter, c'est bien. On encourage les gens à prêter. Mais emprunter, c'est pas bien. C'est pas bien. Le musulman, il fait en sorte de ne jamais emprunter. Tant que possible, tant qu'il le peut, il n'emprunte pas. Il n'emprunte pas. Il ne s'endette pas. Il n'a pas de dette. Il ne doit rien aux gens. Tant que possible. D'accord ? C'est permis, mais ce n'est pas un acte recommandable. Alors que de prêter, c'est bien. Quand quelqu'un est dans le besoin, qu'il te l'ait demandé ou pas, que tu viens pour lui prêter, c'est bien. Et prêter, la moitié de ce que tu prêtes, la moitié de ce que tu prêtes, il t'est écrit en sadaqa. C'était écrit en sadaqa. Quelqu'un vient, ou quelqu'un, je sais qu'il est dans le besoin, je viens, je lui dis, je te prête 5000 euros. 2500 euros en sadaqa. C'est comme si j'ai fait une sadaqa de 2500 euros. Donc ça, c'est un encouragement à prêter. Taïe. Donc, il y a un encouragement à prêter. Et c'est comme ça que les gens vivaient. Les gens qui étaient dans le besoin, lorsqu'ils se sentaient obligés d'emprunter, ils allaient. Et il y avait cette entraide. C'est une forme d'entraide. Les banques, leur propagation, elle a enlevé cette entraide. Il n'y a plus cette entraide entre les gens, parce que maintenant les gens, ils vont directement à la banque. Et à la base, avant, il n'y avait pas les banques. Donc il y avait les gens se débrouillaient sans les banques, déjà. Mais celui qui emprunte, il se doit, si jamais il a emprunté, d'en faire un souci. Pas comme certains qui dorment tranquillement, ils doivent de l'argent à tout le monde. Et ils dorment comme celui qui ne doit rien à personne. Oui, naam, ça existe. Et parfois, ils poussent les gens à ne plus prêter. Parce que les gens, ils ont essayé une fois, deux fois, trois fois, vu le résultat, ils ne veulent plus. Donc l'entraide, elle est des deux côtés. Si ceux qui empruntent, ils rendent en temps et en heure, font les efforts de rembourser, ça va encourager celui qui prête à continuer à prêter. Donc il y a de l'entraide des deux côtés, subhanallah. Et ce n'est pas celui qui prête de se soucier. Lui, il ne doit rien. On lui doit. Mais aujourd'hui, souvent, c'est celui qui prête qui se soucie. Et celui qui emprunte, qui marche tranquillement comme si de rien n'était. Subhanallah. Non. Tu as emprunté, tu as cherché des gens pour qu'ils te prêtent. Cherche-les pour les rembourser. La période, elle arrive, le délai, il arrive. Tu es en difficulté, n'attends pas le délai. Contacte-le, parle-lui de ta situation. des fois, c'est un manque de dialogue. Celui qui prête, ce qui l'énerve des fois, ce qui le met en colère, ce n'est pas d'avoir que la personne n'a pas pu rembourser, non. C'est que la personne, elle a attendu le délai, le jour J, et parfois même, il a laissé le délai dépasser. Il ne répond plus au téléphone, il ne fréquente plus les mêmes endroits. Qu'est-ce qu'il va penser celui qui prête? Que cette personne est en train de fuir. Elle ne prend pas ses responsabilités. Alors que non, elle prend ses responsabilités. Dès qu'elle sait qu'elle a un problème, qu'elle a une difficulté, elle contacte. La personne, elle va être contente. Alhamdulillah, il donne signe de vie. Ça se voit, il me montre de par ses gestes qu'il est soucieux de sa dette, qu'il veut rembourser sa dette. Subhanallah. Donc ça, c'est important. Des deux côtés, il y a des efforts à faire. Et c'est grave d'être endetté, de devoir aux autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait une janaza, il demandait. Il demandait. La personne, elle a des dettes? Oui. Allez-vous prier sur lui? Moi, je ne prie pas sur lui. Et parfois, des compagnons prenaient l'engagement de rembourser la dette pour que le prophète, il prie sur cette personne. Subhanallah. Donc, il faut faire attention. Et qu'une personne fasse preuve de crainte d'Allah, Azza wa Jal. Parce que si tu as fui les problèmes de ce bas monde, tu ne fuiras pas le jugement d'Allah Azza wa Jal. Ne crois surtout pas que tu vas t'en sortir. Et Yom al-Qiyama, les personnes, ne vous attendez pas à grand chose. Hein. C'est nefsi, nefsi. Les gens, c'est ma personne. J'en ai besoin. Tu me dois, il faut que tu me payes maintenant. En hasanat. T'as plus de hasanat? Je vais te poser des péchés sur toi. Tu vas les prendre avec toi, les péchés. Donc, il faut faire attention. Autant régler ses problèmes ici pour être soulagé dans l'au-delà. Te suffisent tes propres péchés et ta propre désobéissance envers ton Créateur pour que tu en rajoutes avec des problèmes avec les créatures. Donc, c'est important. Donc, les gens, ces gens-là profitent. Ils savent que les gens sont dans des difficultés financières. Et donc, ils leur font riba. Wal'iyadhu billah. Wa ab'adu an-nasi 'an ar-rahmah bil bashar. Donc envers les gens, ce sont ceux qui sont les plus éloignés de la miséricorde et de la clémence. Haythu yantahizuna fursata i'sar al-mu'sirin wa shiddata faqrihim wa hajatihim ila al-mal fiyu'ti al-mi'a bi mi'ati 'ashra. Donc, ils attendent le moment de la pauvreté des gens, les moments de la détresse des gens. Et à ce moment-là, les gens viennent vers eux et ils leur disent, on vous prête 100, vous nous rendez 110. Il a ajal, jusqu'à un délai bien précis. Fa'idha halla al-ajal, wa lam yaqum al-madin bi'ada'i daynihi, ربما زاد في الربا وضاعفه عليه اضعافا. Et lorsque le délai, la date butoir arrive et que la personne ne peut pas, et bien à cause de ce retard, il va encore lui rajouter dans le riba. Je t'avais donné 100, tu me devais 110. La date elle est passée, tu me dois encore plus que 110. Wal'iyadhu billah. Attention, et ça c'est ce qui arrive avec les banques, hein, et ce qui aussi un point important. Vous savez, les gens qui ont des comptes, souvent, on leur dit, vous avez le droit au découvert. Vous avez le droit au découvert. Le découvert, c'est un prêt. Hein? Ne vous trompez pas, c'est un prêt. Dont les clauses sont contraires à l'islam. Parce que si tu dépasses le délai, tu payes des ajours. N'est-ce pas? Tu dépasses le délai de remboursement, tu payes des ajours. Donc le contrat du découvert, il n'est pas bon. Donc celui qui a un compte, qui ne se mette jamais à découvert. Jamais à découvert. Hein, celui qui a un compte bancaire, qu'il évite de ne jamais être à découvert parce que c'est un prêt dans lequel il y a du riba, ils l'appellent comme ils veulent, agios, hein. T'as pas payé à temps et en heure, tu dois rembourser plus que ce qu'on t'a prêté.
فيلحق بالناس وباقتصادهم من الأضرار والدمار ما لا يعلمه إلا الله.
À cause de ces actions gravissimes, ce grand péché, les gens sont touchés. Leur économie, elle est touchée par des maux, de la destruction, que, dont l'ampleur, il n'y a qu'Allah, tabarak wa ta'ala, connaît. Beaucoup de calamités, de problèmes, de troubles, de maux touchent les gens. Et parmi les raisons, il y a ce problème-là, ce grand péché qui est les intérêts et l'usure.
يحيق بآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لعائن الله وغضبه أعاذنا الله من ذلك.
Donc, les malédictions d'Allah, la colère d'Allah, qu'Allah nous en préserve, viennent à toucher, à atteindre celui qui prend l'intérêt, celui qui donne l'intérêt, celui qui écrit la transaction où il y a de l'intérêt et les témoins de la transaction où il y a l'intérêt. Ils sont tous au final semblables et complices de ce mal.
وَخَامِسُ الْمُوبِقَاتِ.
Cinquième grand péché destructeur, أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ, de profiter, de manger l'argent ou les biens de l'orphelin.
فَمِنْ حَقِّ الْيَتَامَ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَكْفُلُوهُمْ وَيَقُومُوا بِتَرْبِيَتِهِمْ والعناية بشأنهم وينموا أموالهم ويساعدوهم حتى يبلغوا أشدهم ويدركوا رشدهم.
Parmi les droits des orphelins sur les gens, sur la communauté, si tu viens à quitter ce monde, tu voudrais bien qu'on s'occupe convenablement de tes enfants, n'est-ce pas? Tu voudrais bien qu'il y ait des gens de bien qui viennent bien s'occuper de tes enfants et de ce que tu as laissé léguer comme bien, comme richesse pour tes enfants. Personne ne voudrait qu'on vienne profiter de ses enfants, n'est-ce pas? Alors, l'enfant qui vient de perdre son père, qui vient de perdre sa famille, on se doit de se comporter ainsi avec lui. Donc, ces orphelins dans la communauté, ses parents ne sont plus là, il y a la communauté, donc ils ont des droits. Et parmi ces droits, c'est qu'ils soient préservés, protégés. Qu'ils soient, même si on dit, même l'adoption, mais ce n'est pas l'adoption comme on le comprend, on l'entend aujourd'hui. Adopter un enfant, ce n'est pas lui enlever son identité, lui enlever son affiliation. Il sera toujours le fils de son père et de sa mère. Et il porte le nom de son père. Pas ceux qui adoptent des enfants et qui les entrent dans le livret de famille et ils portent le nom de cette famille et ils ne connaissent même plus son origine. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait un servant qui est un grand compagnon qui s'appelle Zayd ibn Haritha. Et à Mecca, c'est avant l'islam, les gens en venaient à l'appeler Zayd ibn Muhammad. Zayd, le fils de Muhammad. Il était tout le temps avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était avant l'islam. Puis quand l'islam est arrivé, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été envoyé. Allah, tabaraka wa ta'ala, lui a révélé que chacun doit être affilié à son propre père. Et on l'a appelé Zayd ibn Haritha, qui est le nom de son père.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
محمد n'était le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes.
ادعوهم لآبائهم هو أقصى عند الله.
Affiliez-les reliez-les à leur propre père. Ceci est bien plus droit auprès d'Allah et plus juste auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, de leur donner la bonne éducation, de s'occuper de leur éducation. Et aussi, s'ils ont des biens, des richesses, de pouvoir, celui qui s'en occupe, le tuteur, il peut faire travailler cet argent pour qu'ils gagnent. D'accord ? Qu'ils gagnent en faisant du commerce, comme si c'était pour lui-même, mais c'est pour ses enfants-là. Comme ça, ils pourront récolter tout cela lorsqu'ils seront en âge adulte. Et il les aide, il leur vient en aide jusqu'à qu'ils atteignent l'âge de la puberté, qu'ils deviennent des adultes responsables. Et à ce moment-là, on leur donne leurs biens et leurs richesses qui sont leurs propriétés. وَقَدْ زَجَرَ اللَّهُ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ عَنْ آكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ وَتَوَعَّدَ عَلَى ذَلِكَ أَشَّدَّ أَنْوَاعِ الْوَعِيدِ. Allah tabaraka wa ta'ala a réprimandé dans son livre celui qui prend, qui vole, qui mange, qui profite des biens ou des richesses ou de l'argent de l'orphelin. Et il l'a menacé de la pire des menaces. Il dit subhanahu wa ta'ala, inna alladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman. إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. Dans le sens du verset, certes, ceux qui profitent, qui mangent l'argent des orphelins par injustice, cela ne font que manger dans leur ventre du feu. Et ils ont comme demeure le feu de l'enfer. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. وَزَجَرَا عن قربانه إلا بالتي هي أحسن. Et il a réprimandé, subhanahu wa ta'ala, de s'approcher des biens, de la richesse, de l'argent de l'orphelin, si ce n'est de la meilleure des manières. ومن التي هي أحسن فعل الأصلح في تنمية ماله بالبيع والشراء والتصرف بما يعود عليهم بالربح والنماء المباح. Et fait partie de se rapprocher, de s'approcher des biens, de la richesse, de l'argent, de l'orphelin, de la meilleure manière de faire avec cet argent, de le travailler de la meilleure manière dans le commerce, l'achat et la vente, et de le gérer dans ce qui sera au final un bien pour ces orphelins. وسادسها, le sixième grand péché, التولي يوم الزحف والفرار من لقاء العدو. Ça, c'est pour celui qui est dans le champ de bataille. Une fois dans le champ de bataille face à l'ennemi, le soldat, le musulman, ne doit pas tourner le dos, ne doit pas fuir le combat, il doit aller jusqu'au bout. Et ceci, le fait de fuir à ce moment-là, bien précis, fait partie de ces grands péchés. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْجُبُنِ وَفِيهِ إِضْعَافٌ لِشَوْكَةِ الْمُسْلِمِينَ وَخُذْلَانٌ لَهُمْ وَضَيَاعُ الدِّينِ وَتَمْكِينُ الْكَافِرِينَ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَنِسَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. Car agir ainsi, c'est montrer de la peur, c'est montrer un manque de courage, et ça viendra aussi à affaiblir la force des musulmans. Et c'est aussi un moyen de trahir les musulmans. Et cela peut amener à la perte de la religion et de permettre aux mécréants, aux ennemis, de prendre le dessus et d'en venir à tuer les musulmans, leurs femmes, et de prendre leurs biens et leurs richesses. « Wa la yajouz li muslimin an yafirra min ma'rakatin » هو الفائز فيها إما بالفتح والنصر والغنيمة وإما بالشهادة في سبيل الله. Et il n'est pas permis à un musulman qui est en plein champ de bataille de fuir alors qu'au final il est toujours gagnant, le musulman. Soit ils vont conquérir et avoir le dessus dans la bataille et donc ils auront la victoire et le butin de guerre, ou alors il tombera martyr dans le champ de bataille, dans le sentier d'Allah Azza wa Jal. Et le septième point, parmi les grands péchés destructeurs, qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat wa ra'myuhunna bizina wa nisbatuhunna ila al-fawahish. Le fait d'accuser à tort des femmes croyantes, insouciantes, et de dire d'elles qu'elles ont commis la fornication et l'adultère, et de dire qu'elles font des turpitudes et qu'elles font ces gens, ces mauvaises actions. Innaha la jarimatun azimatun an ta'mad ila imra'atin karimatin mutamatti'a bil hasana wal 'iffa ba'ida 'an ar-riba wa la takhtur بقلبها الفاحشة فتقذفها بالزنا وترميها بالفاحشة. Quel grand crime énorme d'aller s'attaquer à une femme noble, honorable, qui est préservée, qui se préserve, qui préserve sa chasteté, loin de tout doute. Jamais ça n'a traversé son esprit ou son cœur, cette idée de commettre ce péché. Elle n'y pense même pas. Et tu en arrives, toi, à venir à l'accuser, à la traiter de femme qui a commis l'adultère et la fornication et le mal. Inna man yaf'alu dhalika yajibu an ya'tiya bi arba'ati shuhada. Celui qui agit ainsi, il se doit obligatoirement de ramener avec lui 4 témoins. Témoins de l'acte de l'adultère, de la fornication. Pas « j'ai vu un homme et une femme dans une pièce ». Non. Ils étaient tout seuls dans la maison. Non. Ça sous-entend plein de choses. Peut-être qu'ils n'en sont pas arrivés à tout cela. Ils ont vu de leurs propres yeux. Ils témoignent, on les a vus en train de commettre l'adultère. C'est fort, c'est pratiquement impossible. Hein? Si toi tu l'as vu, il faut que tu ramènes avec toi 4 témoins. T'as pas les 4 témoins, tu fermes ta bouche, tu te tais, tu ne parles pas. Si ce n'est d'aller conseiller les gens que ce n'est pas bien ce qu'ils ont fait. Mais tu ne peux pas aller dire « elle a fait, il a fait » parce que là, oui, aujourd'hui, les gens, la crainte d'Allah, elle nous sert tout le temps. Et c'est ce qui va nous sauver. On n'a pas besoin de tribunaux, de police. La crainte d'Allah, elle nous suffit. Mais il y a des gens, leur crainte d'Allah, elle est faible. Et donc, il n'y a qu'une autorité qui sait mettre un terme à cela. Ces gens qui propagent à tort ou à raison comme ça, qui parlent. Des gens qui ne pèsent même pas leurs mots. Ils ne savent même pas la teneur de leurs phrases. Subhanallah. On entend par-ci, par-là. Il a fait clairement le zina. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi alors vous dites qu'il l'a fait? Subhanallah. Combien de fois? Tellement que les gens, ils ont pris cette habitude de parler tranquille. Ils s'attaquent à l'honneur des gens, à la dignité des gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tribunal qui viendra les corriger sur ça. S'il y avait, il aura sa correction une fois, il ne recommencera plus. Subhanallah. Et ça sera une leçon pour tout le monde. Donc, inna man yaf'alu dhalika yajib an ya'tiya bi arba'ati shuhada wa illa fa huwa 'inda Allah min al-kadhibin al-fasiqin. Soit il ramène les 4 témoins, ou alors il sera auprès d'Allah parmi les menteurs, les pervers. Wala tuqbalu lahu shahada abada. Et plus jamais on acceptera son témoignage. Wa yajibu an yuqama alayhi al-had. Et c'est lui à ce moment-là C'est un devoir qu'il doit être sanctionné. Et la sentence en islam pour cette personne qui a fait cela, c'est d'être fouetté. 80 coups de fouet. Voilà sa sentence dans ce bas monde. Ça, c'est le dunya. Mais la sentence et la rétribution qui l'attend dans l'au-delà, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préparé pour ce genre de personnes. Inna alladhina yarmoun al-muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fi dunya wal-akhirah walahum azabun azim yawma tashhadu alayhim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allahu Akbar. Dans le sens du verset, certes ceux qui viennent à taxer, à accuser les femmes chastes, insouciantes, croyantes, ils sont maudits dans ce bas monde et dans l'au-delà, et un châtiment douloureux les attend. Le jour où viendront témoigner contre eux, leur langue, leurs mains, leurs pieds, pour ce qu'ils ont commis. Leurs propres membres du corps viendront témoigner contre eux. Qu'Allah nous en préserve. Fajtani, ayyuha al-muslim, hadhihi al-mubiqat. Ô toi le musulman, toi qui es soumis à Allah Azza wa Jal, éloigne-toi de tous ces grands péchés destructeurs. Wa la tudannis nafsaka bi shay'in minha. Et n'entache pas ta personne. Ne viens pas à empoisonner ta personne. Ne viens pas à salir ta personne par ces actions-là. فَتُوْجِبُ لَهَا مَقْتَ اللَّهِ وَغَضَبَ إِلَى جَانِبِ مَقْتِ النَّاسِ وَسَخَطِهِمْ عَلَيْكَ وَاحْتِقَارُهُمْ لَكَ. Car en faisant cela, tu mériteras la colère d'Allah et son courroux. Et de même, la colère des gens, le courroux des gens et leur détestement envers toi, et ils te verront comme quelqu'un de méprisable. وَعْلَمْ أَنَّ الْكَبَائِرْ كَثِيرًا. Et sache que les grands péchés sont nombreux. Il n'y a pas que ces sept cités dans ce hadith. فَهِيَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِلَى السَّبْعِينَ أَقْرَبٍ. Et le nombre de ces grands péchés, comme l'a dit Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, que ça s'approche de 70, du chiffre de 70. C'est à peu près le nombre qu'il y a dans le livre de l'imam al-Zahabi. Il y en a combien en tout? 77? Non? Rahimahullahu ta'ala, l'imam al-Zahabi, il a un livre qui s'appelle Al-Kaba'ir, les grands péchés. Et là, il énumère dedans, un chapitre, c'est un grand péché. وَقَدْ أُلِّفَتْ فِيهَا كُتُبْ. Et des ouvrages, des livres ont été écrits là-dessus, sur les grands péchés. مِثْلْ الْكَبَائِرْ لِلْذَهَبِي وَهُوَ مَطْبُوعٍ. Comme le livre الْكَبَائِرْ, les grands péchés de l'imam الذَهَبِي. Et c'est un livre qui est déjà publié. وَمِثْلْ كِتَابْ الزَّوَاجِرْ عَنْ اِخْتِرَافِ الْكَبَائِرْ لِبْنِ حَجَرْ الْهَيْتَمِي. C'est pas l'Asqalani, ça c'est un autre Ibn Hajar. Ibn Hajar al-Asqalani qui a fait Fathul Bari. D'accord ? Là, c'est un autre qui s'appelle Ibn Hajar al-Haytami, qui a un livre sur les grands péchés. Fa'arif al-Kaba'ir, thumma ijtanibha. Alors, tu te dois de connaître quels sont les grands péchés pour pouvoir t'en éloigner. Tu les apprends pour pouvoir t'en éloigner. Tu t'en éloignes sur une connaissance. Ya'firullahu laka as-sara'il wal-laman. En faisant cela, tu t'éloignes des grands péchés, Allah il te pardonne les petits péchés. Qala ta'ala, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Dans le sens du verset, Allah nous dit, si vous vous éloignez des grands péchés, alors nous expirons, nous effacerons vos péchés, c'est-à-dire vos petits péchés. et nous nous faisons, nous vous ferons entrer par une entrée, une bonne entrée. Ma yustafadu min al hadith. Les leçons à retenir du hadith. Ra'fatu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatuhu bi ummatihi haythu yadulluhum ala khayri ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiruhum sharra ma ya'lamuhu lahum. On y trouve dans ce hadith la compassion et la clémence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envers sa communauté, de sorte qu'il les dirige vers ce qu'il y a de mieux, ce qu'il sait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien il nous dirige vers ce bien, et il nous met en garde faire ce qu'il sait que c'est un mal. Wujub ijtinab hadhihi al-mubiqat allati hadhara minha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ijtinab ghayriha min al-kaba'ir allati dalla 'alayha al-kitab wa as-sunnah. L'obligation de s'éloigner de ces grands péchés destructeurs dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde, nous a prévenu contre, de même de s'éloigner contre les autres grands péchés qu'on retrouve dans le livre d'Allah, cité dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. A'zamu hadhihi al-kaba'ir ash-shirk billah فإنه الذنب الذي لا يغفى. Le plus grand de ces grands péchés, c'est l'association à Allah, le polythéisme, de donner à Allah des associés, car c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin. Est-ce une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la moitié de ce qu'on prête est une sadaqa? Oui, ça c'est le contenu d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne peut pas l'inventer, personne ne peut l'inventer, il n'y a que la révélation qui te permet de savoir ça. Personne ne peut te donner cette information-là. Ça, c'est une information qui nous vient d'Allah Azzawajal ou de son prophète. Sinon, on ne peut pas le savoir. Comment on peut savoir que telle action...